Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les cultes se suivent et ne se ressemblent pas. Le Seigneur nous avait parlé d'une manière la semaine dernière et le Seigneur va encore nous parler d'une autre manière ce matin. Le Seigneur est vivant et quand il nous parle, eh bien c'est de manière à toucher nos cœurs, à toucher nos pensées et nos esprits. Alors ce matin, c'est une prédication en deux temps que je voudrais faire. Dans un premier temps, je voudrais continuer à partager... parce que on croit avoir fait le tour d'un verset, mais il y a toujours des choses à découvrir. Alors depuis le début septembre, on est sur ce verset de Matthieu 28, verset 18, chapitre 28, verset 18, et que je vais relire, comme ça je mets tout le monde en accord. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le premier temps, ça va être sur ce verbe « aller ». Alors je sais, au 1er septembre, nous avons parlé sur ce verbe « aller ». Je voudrais y revenir encore, parce que je crois que c'est assez important. Et dans un second temps, je voudrais vous parler de l'espérance chrétienne. Si je devais donner un titre à mon message, je dirais « L'espérance, c'est le moteur et le but de la marche chrétienne ». Donc le premier mot de notre verset, c'est « aller ». C'est donc une invitation à une marche. C'est une invitation à aller de l'avant. C'est une invitation à une aventure nouvelle. On ne sait vraiment pas où ce voyage pourrait nous amener. Alors lorsque Jésus appelle les apôtres à aller, d'abord il leur dit, bien d'abord allez à Jérusalem, là où vous êtes, et puis après en Samarie, puis après en Judée-Samarie, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Le voyage, on sait où il commence, mais on ne sait pas où il nous amène, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors certains se retrouvent à Nîmes, ils voudraient être ailleurs, hein, Chantal, n'est-ce pas? Et d'autres se retrouvent ailleurs et aimeraient être à Nîmes. C'est le Seigneur qui nous amène comme ça, hein. C'est un petit peu comme Abraham qui est parti sur l'ordre de Dieu, part vers le pays promis, part vers le pays que je te montrerai. Il ne savait pas exactement où est-ce qu'il allait aller, mais le Seigneur marchait devant lui. J'aimerais qu'on lise Hébreux 11, verset 8. Où il nous parle d'Abraham et de sa marche. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors cette semaine, Chantal et moi, avec d'autres, nous avons été invités à vivre une soirée de fête sous une souka. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une souka ? Une souka, c'est une cabane qui est faite de branchages et que l'on construit à l'occasion de soukot. C'est-à-dire la fête des cabanes ou la fête des huttes ou encore la fête des tabernacles. Vous avez sûrement dû en entendre parler. C'est une fête qui dure une semaine. Et Christian et Sylvie Saorine ont construit une superbe cabane, une superbe souka dans leur jardin où ils nous ont invités. Durant cette fête de Soukhot, les Juifs habitent sous une tente, mangent sous la tente, dorment sous la tente, accueillent des invités sous la tente, font la fête sous la tente. Même installé dans la vie, en ayant tout le confort possible, la climatisation ou le chauffage, le frigo, le micro-ondes, ils passent une semaine sous une tente. C'est une fête qui est riche en symboles et je ne vais pas revenir sur tous les symboles que cette fête représente. Mais durant cette semaine de Soukhot, qui vient de s'achever pour les Juifs se rappellent qu'ils ont été en pèlerinage. Ils ont été en pèlerinage durant 40 ans dans le désert. Et qu'ils sont encore eux-mêmes en voyage sur cette terre. Et c'est aussi une fête eschatologique, c'est-à-dire qui oriente vers le futur. Puisque les prophètes disent que toutes les nations, entendez les nations non-juives, bien sûr monteront à Jérusalem pour célébrer l'ultime fête des tabernacles. C'est un petit peu ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. L'attente, non pas la cabane, mais l'attente, le fait d'attendre, l'attente de la cité céleste qui est en ligne de mire durant cette fête. L'attente. Alors les chrétiens sont aussi des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Vraiment, je voudrais que nous puissions prendre conscience cela par le Saint-Esprit ce matin. Que nous sommes, vous êtes, des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes tous tentés, moi y compris, de nous attacher au monde dans lequel nous vivons, tentés d'y faire notre trou, comme si nous devions y vivre pour l'éternité. Nous nous attachons aux choses d'en bas. Nous croyons y trouver la sécurité, le confort, la raison de vivre, le but de notre existence. Frères et sœurs, parfois nous confondons les moyens et les buts. Les biens matériels, le confort, la sécurité, la profession sont des moyens et ne sont pas des buts. Devant nous se tient deux styles de vie. Ce matin, le Seigneur nous a parlé de deux chemins, de la vie ou de la mort. Devant nous se tient deux styles de vie, deux attachements, deux ambitions, deux endroits où placer nos trésors. Allons-nous nous attacher aux choses d'en haut? Allons-nous penser nos vies au service du Seigneur? Allons-nous placer nos trésors à l'endroit où rien ne se dégrade? Où est-ce que les voleurs ne peuvent entrer? Ou allons-nous choisir l'autre style de vie, nous attacher aux choses d'en bas, faire des moyens que nous vivons des buts dans nos vies et perdre le sens de nos vies? Abraham et Lot ont été confrontés à cette situation. Devant eux se tenaient deux styles de vie, la marche ou la sédentarité. Lot a choisi la ville, un espace verdoyant, un espace agréable, un espace facile, un espace propice au confort et à l'augmentation de l'avoir. Abraham s'est dirigé vers la marche, vers la tente, vers le désert, c'est-à-dire le lieu de la parole. En hébreu, le désert, c'est le lieu de la parole. Abraham s'est dirigé vers la progression de l'être et non de l'avoir. Nous sommes ce matin... Je crois que vraiment par le Saint-Esprit, nous sommes aussi confrontés à ces choix de vie. Et qu'est-ce que nous allons choisir? Allons-nous choisir la marche? Ou allons-nous choisir la facilité? Seconde partie de la prédication. Alors gardez ça en mémoire, n'est-ce pas ? la marche. Savez-vous quelle est la différence entre un voyage et une errance? Facile. Hein? Facile. Dans une errance, on marche sans fin ni but. On marche ça et là. Quand j'écrivais ça, ça me faisait penser à un cantique qu'on chantait il y a longtemps. Hein. Ça et là, j'erre comme un pèlerin sur cette terre. Voilà. Et j'aime pas le mot errer. La définition du mot errer, c'est marcher sans fin, longtemps et sans but précis. Mais dans un voyage, on démarre, on marche et on s'oriente vers un but précis. C'est ça la différence entre un voyage et une errance. Tous les hommes sont en voyage. Mais pour certains, le voyage est vraiment un voyage. Mais pour la majorité des hommes, le voyage est simplement une errance, sans but. Dans notre voyage de chrétien, dans notre chemin, dans notre marche, les gens qui errent vont nous demander « Hey, où vas-tu? Vers où te diriges-tu? Vers quel but avances-tu? Quel est le terme de ton voyage? Est-ce encore loin? Quelle est la direction ?» Et c'est là que nous devrons parler d'espérance. L'apôtre Pierre dit que nous devons être prêts à rendre compte de notre espérance à tous les hommes, c'est-à-dire à être prêts à donner les raisons et les fondements de l'espérance qui nous habite. La langue française a deux mots pour dire l'attente d'une réalité. C'est l'espoir et l'espérance. Quelles sont les différences entre espoir et différence? Quelles sont les différences entre espoir et espérance? Alors c'est vrai que les deux se tournent vers l'avenir. Mais les points de départ ne sont pas les mêmes. Les points de départ ne sont pas les mêmes. L'espoir va naître de nos désirs, va naître de nos rêves, va naître parfois de nos prévisions ou de nos statistiques. J'espère gagner au loto. J'espère gagner au tiercé. J'ai bien regardé la cote de chaque cheval. Je sais que statistiquement, celui-ci va gagner. J'espère avoir 3 garçons. Ça, c'est fait, je peux rayer. L'espoir rend optimiste, voire utopiste. L'espoir peut être égocentré. Cela ne concerne que moi. Mais l'espoir peut être aussi altruiste. J'ai espoir que l'humanité s'améliore. J'ai espoir que le droit s'installe sur la terre. C'est un espoir qui est fondé sur la pensée que l'homme est bon. C'est un espoir qui est fondé sur le fait que je pense que le progrès va nous amener dans une ère formidable de bien-être de l'humanité. J'ai un espoir. L'espérance aussi se tourne vers le futur, de même que l'espoir. Le point de départ n'est pas le même. Le point de départ ne s'appuie pas sur nous, pas sur nos rêves, pas sur nos désirs, pas sur les prévisions, pas sur les statistiques. L'espérance s'appuie, je dirais, sur le rêve de Dieu. L'espérance s'appuie sur le plan de Dieu. L'espérance s'appuie sur ce que Dieu a dit qu'il fera. L'espérance se conforte en regardant à ce que Dieu a déjà fait, à ce qu'il a accompli. Et comme il est fidèle dans ce qu'il dit et ce qu'il a accompli, je regarde vers le futur en comptant sur la même fidélité qu'il a eue dans le passé. Dans Hébreux 10, verset 23, il est marqué comme ça. « Retenez fermement la profession de votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il parle, il réalise ce qu'il a dit qu'il fera. L'espérance s'appuie sur le plan de Dieu. Elle se nourrit non pas de nos vœux, mais de la parole de Dieu. Elle est réconfortée par les promesses déjà accomplies, qu'ils soient personnelles, qu'ils soient historiques. Le Seigneur vous a donné des promesses. Le Seigneur nous a rappelé encore ce matin qu'il avait donné des promesses, même par rapport à une progéniture. Nous avons vu comment Dieu a tenu ses promesses dans nos vies particulières. Mais nous pouvons voir aussi que Dieu est fidèle, je dirais, de manière historique. Dieu s'attache à l'histoire des hommes. La venue du Christ a été prophétisée. Sa mort en croix a été prophétisée. Sa résurrection d'entre les morts a été prophétisée. La naissance de l'Église a été prophétisée. L'Évangile proclamé dans toutes les nations a été prophétisé. Le passage d'un cœur de pierre à un cœur de chair a été prophétisé. La réception de l'Esprit sur toute chair a été prophétisée. Ça a été dit longtemps à l'avance et ça a été accompli. Celui qui a fait les promesses, qui les a tenues dans le passé et dans le présent, ne saurait mentir quant à l'avenir. L'apôtre Paul s'écrit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu a commencé un chemin avec vous, nous avons commencé un chemin avec lui et je sais où est-ce qu'il aboutira. Pas ce que j'ai envie, pas ce que je désire, mais ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, Dieu dans son plan. Non seulement Christ en vous, l'espérance de la gloire, mais la victoire de la vie sur la mort, sur la résurrection des corps, sur la fin de l'injustice et de la souffrance, sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est ce qu'il a promis, qu'il fera. C'est ce qu'il a dit, qu'il fera. Et mon espérance est dans cela. L'espérance chrétienne, frères et sœurs, c'est le remède au désespoir du monde. Et lorsque nous sommes amenés à dire notre espérance, nous sommes souvent en but à la raillerie ou parfois même à la critique. Les gens vont nous dire, toi tu espères cela, mais tu n'as qu'à regarder les informations, hein. Tu verras que c'est pas terrible le monde. Hein. C'est pas terrible le monde. On a des frères irakiens qui sont là, qui ont fui Daesh. Abraham, il est marqué qu'il a espéré contre toute espérance. Lui qui avait reçu la promesse d'un enfant et qui était vieux en âge et qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Il est marqué qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Et cet enfant est venu, n'est-ce pas? Alors oui, lorsque nous parlons de l'espérance chrétienne, nous pouvons être la proie à la raillerie ou à la critique. Lorsque Paul se retrouve devant les tribunaux, il est dit que c'est à cause de l'espérance et de la résurrection que je suis devant les tribunaux, à cause de l'espérance. Il y a plusieurs critiques majeures qui se sont développées à l'encontre de l'espérance chrétienne. La première, c'est le carpe diem. Vous connaissez carpe diem. Vivre l'instant présent. Vive l'instant présent, parce qu'il n'y a rien à espérer du futur. Ou alors, de manière philosophique, il ne faut pas nous attacher au futur, parce qu'il va être source de déception et de malheur. Il ne faut même pas s'attacher au passé, parce que le passé, c'est de la nostalgie. Et puis, il ne faut même pas s'attacher aux choses ni aux êtres humains, puisque un jour ou l'autre, ils vont partir et ça va être source de mal pour moi. L'apôtre Paul parle à Athènes. Athènes, c'est la cité des philosophes. Il est marqué qu'il y avait des stoïciens et des épicuriens qui écoutaient l'apôtre Paul. Et c'est au moment où Paul parle de la résurrection, c'est-à-dire de l'espérance chrétienne, que les philosophes stoïciens et épicuriens disent « Écoute, Paul, on t'écoutera une prochaine fois. » Parce que leur philosophie, c'est ça. Ne pas s'attacher ni au passé, ni au futur, ni aux choses, ni aux êtres humains. Parce que c'est source de mal. Et notre civilisation aujourd'hui développe à nouveau ce carpe diem. Vive l'instant présent sans s'attacher ni au passé, ni au futur, ni aux choses, ni aux êtres. Sois dans le monde. Nous avons des choses à dire à ces gens qui refusent l'espérance parce que pour eux, ce serait source de mal. Les stoïciens ont la philosophie de l'autruche, en fait. Ils plongent leur tête dans le sable pour ne plus être en contact avec tout ce qui se passe autour d'eux. La deuxième critique qu'on peut faire au sujet de l'espérance chrétienne, et ça vous allez l'entendre et vous l'avez déjà entendu, les gens vont vous dire « Mais c'est trop beau pour être vrai !» C'est trop beau pour être vrai. C'est un drôle d'argument, vous ne trouvez pas ? Qui n'a pas de logique interne. Pourquoi la beauté de l'espérance chrétienne jouerait-elle contre la réalité de l'espérance chrétienne ? Alors peut-être, si vous êtes confronté à quelqu'un, lorsque vous parlez de la foi en Christ, lorsque vous parlez de la nouvelle naissance, lorsque vous parlez du salut, lorsque vous parlez des nouveaux cieux et nouvelles terres, les gens vont vous dire « mais c'est trop beau pour être vrai ». Pourquoi, à ce moment-là, je pense que vous devriez leur dire « mais pourquoi est-ce que tu n'y goûtes pas, toi, maintenant ? Pourquoi est-ce que tu n'y goûtes pas, toi, maintenant ? Pourquoi tu ne ferais pas l'expérience de la beauté, de la réalité de l'espérance chrétienne ?» Ne nous laissons pas désarmer par les gens qui nous disent « c'est trop beau pour être vrai ». Parce que nous avons fait l'expérience de la beauté et de la réalité du salut en Jésus-Christ et de cette grâce. Nous avons une réponse à ceux qui nous disent « c'est trop beau pour être vrai ». La troisième critique, c'est celle de Marx. L'espérance chrétienne, c'est l'opium pour le peuple. C'est la fuite en avant. C'est pour vous couper de la misère du monde. Vous pensez au futur, mais vous vous coupez du monde. Frères et sœurs, l'espérance chrétienne, elle n'agit pas simplement dans le futur, ce n'est pas simplement une attente du futur. L'espérance chrétienne, c'est le futur qui vient dans mon présent. Difficile à comprendre ça. Mais c'est ce que j'espère qui agit dans ma vie, qui devient comme un dynamisme dans ma vie présente, comme un moteur dans ma vie présente. C'est pour ça que je dis que l'espérance chrétienne agit dans le présent, but et moteur de nos vies et de notre marche. Elle nous pousse à agir dans le présent parce qu'elle nous pousse à annoncer la beauté et la réalité de l'espérance. Elle nous pousse à annoncer l'évangile. Elle nous pousse à vivre et à anticiper la venue du royaume par la communion fraternelle. L'Église est le peuple du royaume. Nous sommes le peuple du royaume. Et ensemble, dans le monde, nous faisons goûter par anticipation ce que va être le monde à venir. Par le pardon que nous nous octroyons les uns les autres, par la compassion que nous manifestons les uns vis-à-vis des autres, par l'amour que nous donnons les uns aux autres, nous manifestons par anticipation ce royaume de Dieu qui vient et que nous attendons. Nous vivons par avance, ensemble, ce qui vient. C'est le monde à venir qui est déjà présent en quelque part. Voyez ? L'espérance chrétienne nous pousse à la lutte contre l'injustice, contre la misère sociale, contre la pauvreté, non pas au nom de l'humanisme, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous attendons cette justice, nous attendons la fin de la misère, nous attendons la fin de l'injustice, et alors nous commençons à la mettre en pratique. Et à la prêcher et à la vivre au milieu de nos concitoyens. La semaine dernière, on avait une réunion avec les jeunes et je leur parlais de la femme enceinte. Au moment du moment de la conception jusqu'à la naissance, il y a 9 mois. Il y a un avenir dès le moment de la conception. Il y a un avenir 9 mois après. Et qu'est-ce que fait la femme enceinte ou la famille ? Va commencer à préparer la chambre, va commencer à acheter les affaires. Ils anticipent déjà la venue de cet enfant nouveau-né. Nous anticipons déjà la venue de ce royaume. Nous sommes comme des femmes enceintes. Même les messieurs. Et notre espérance nous pousse à agir dans le monde. Parce que l'espérance pour nous n'est pas une utopie, n'est pas un opium pour nous endormir, mais une force et un moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Mes frères et sœurs, je veux être prêt à parler de mon espérance, de mon voyage avec ce but devant tous ceux qui errent dans ce monde. Tous ceux qui errent dans ce monde, devant quiconque me demandera des comptes à ce sujet, non seulement en parole, mais aussi en acte. L'apôtre Paul a une belle bénédiction, et je voudrais vous la lire, et puis elle est ma prière et ma bénédiction pour nous ce matin. Et on la trouve dans Romains chapitre 15 et au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et je la relis pour qu'elle soit, s'imprime dans nos cœurs, dans nos pensées. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. N'ayons pas peur de l'avenir, n'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur de tout ce qui peut advenir dans le futur, parce que le Seigneur est celui qui nous a donné l'espérance. Celui qui nous a donné l'espérance est fidèle, comme il a été fidèle dans les choses passées, il est fidèle aussi pour les choses à venir. Alors, frères et sœurs, je marche vers le but que le Seigneur m'a fixé. Et nous marchons en tant qu'Église vers le but que le Seigneur nous a fixé. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le grand salut que tu nous donnes. Seigneur, tu nous as sauvés. Tu as mis en nous, Seigneur, ta grâce, ta vie. Tu as changé nos cœurs de pierre, tu les as transformés en cœurs de chair. Seigneur, tu nous as donné une pensée nouvelle. Tu nous as donné une espérance. Et Seigneur, fais que nous soyons, chacun, chacune, des témoins de cette espérance. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions abonder en espérance, que cette espérance nous habite. Qu'elle soit le moteur de nos actions, de nos vies. Nous ne voulons pas nous attacher aux choses d'en bas. Nous voulons nous attacher aux choses d'en haut. Nous ne voulons pas mettre nos trésors dans des coffres où le voleur pourra aller, où le ver va venir détruire. Nous voulons avoir des trésors dans le ciel. Seigneur, nous voulons choisir la vie parce que c'est à cela que tu nous as appelés, choisir la vie. Seigneur Jésus, c'est vrai que la civilisation, notre civilisation, nous oriente toujours à faire notre trou à l'intérieur. Nous oriente toujours à confondre les moyens et les buts. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons regarder vers toi, Seigneur. Regarder vers tes promesses. Merci parce que tu es celui qui tient tes promesses. Seigneur, fais-nous réaliser, fais-moi réaliser que notre Église, que notre Assemblée, que ma vie, Seigneur, est vraiment un témoin précieux, lumineux, dans ce monde qui est désespéré. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. que par ton esprit, nous puissions abonder en espérance dans ce monde sans espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.